Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche.
Notre premier ordinateur, c'était un gros événement, c'était un investissement colossal. Et en fait, la première chose qu'on a eu à faire, c'était installer Windows 95. Le jumeau numérique, et le Luxembourg se prête très très bien à ça. Donc c'est le fait en fait de vouloir essayer de, comment dire, de créer un clone digital d'une zone, d'une ville, ou potentiellement pour le Luxembourg, de tout le pays. Alors c'est des très bons souvenirs, parce qu'à l'époque, en tout cas quand on parle d'Internet, tout était possible.
Mein Name ist Max und heute dreht sich alles rund um den 5G und den 6G. Was das, was den G eigentlich bedeutet, und vor allem, ob man muss Angst dafür drin haben, erklärt mir heute den Sebastian Fay. Denn er wird dir von dieser Episode, den Internet wahrscheinlich besser kennt, wie wir alle gut zusammen, und wenn Helo ein bisschen mehr Zeit hat, wie just ein Instagram-Bio, da geht für ihn sicher seinen Job falsch, da muss er vorstellen.
Alors, je commencerai par dire que je m'appelle Sébastien Fay. De base, je suis chercheur. Surtout dans le monde des communications sans fil. J'ai surtout appliqué ça au domaine de la mobilité. Et aujourd'hui, je travaille au LIST, donc le Luxembourg Institute of Science and Technology. Et je suis responsable des activités d'innovation liées à ce qu'on appelle aujourd'hui la 5G et ce qu'on appellera demain la 6G.
Ok, heute geht es also um die Technologie, die als Lebewert und Zukunft bestimmen. Du wirst vielleicht nicht schlecht, dann in bisschen mir einfachen Anstieg zu fangen. Und zwar, manchmal ein Definitionsfroh. Was bedeutet eigentlich G? Ist das Gramm? Gravitation? Oder etwas ganz anderes?
Alors, c'est une excellente question. En fait, ce G, ça veut dire génération. Il faut savoir que en fait, le monde des télécoms forcément implique différents acteurs. On a des régulateurs, on a des organismes de standardisation, on a des entreprises. Et en fait, l'effort en fait, pour déployer, pour développer des nouvelles technologies dans le monde des télécoms est toujours très compliqué à organiser. Donc pour faciliter ça, on a créé ce qu'on appelle des générations, hein, donc depuis la 1G jusqu'à la 5G et donc demain la 6G. Et en fait, chaque génération met à peu près 10 ans, je dirais, à se standardiser, à développer des travaux de recherche et à venir en fait sur le marché. Donc, si on prend le cas de la 5G, par exemple, ça a dû commencer à être développé en 2012, je pense, pour être commercialisé uniquement il y a quelques années. Parce qu'encore une fois, l'effort que ça représente en termes au niveau mondial, au niveau européen et même après au niveau local, l'effort de synchronisation, en fait, de coordination entre tous les acteurs du métier est très très grand et c'est pour ça que c'est plus facile en fait pour l'industrie d'agréger finalement par génération.
Donc le premier G c'est le premier G le G1, je ne sais pas comment l'appelle,
c'était un G, on peut dire.
Un G, oui. C'était le premier Internet qui existait en fait.
Non, pas spécialement. C'est-à-dire que là vraiment, on parle du monde des télécoms, en fait, hein, donc de la téléphonie mobile. Mm-hmm. Donc, Internet, évidemment, l'accès à Internet, c'est quelque chose qui a été développé ensuite il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Mais là, on parle vraiment du monde des communications mobiles. Donc, en fait, tout ça, c'est parti d'un constat très simple. Dans les années, je pense, 80, il y avait un besoin vraiment pour les personnes qui se déplaçaient de téléphoner. De passer des coups de fil. Donc évidemment, avant, il y avait pas mal de solutions, mais c'était uniquement des solutions fixes qui étaient dans des bâtiments. Et finalement, la 1G, c'est quoi ? Les premières technologies de la première génération qui ont été développées, c'était des téléphones en fait, déployés dans des voitures. Donc c'était des gros combinés déployés dans des voitures et qui permettaient du coup à différents types de personnes de téléphoner, de passer des coups de fil, de communiquer avec leurs proches. Et ça, c'était une révolution en fait à l'époque. Parce qu'avant ça, évidemment, c'était impossible pour ces personnes-là de communiquer, communiquer en se déplaçant. Il y avait différentes solutions, mais en tout cas, celle-là a démocratisé vraiment le principe de la téléphonie mobile. Et suite à ça, du coup, on a eu d'autres générations qui ont chacune apporté leur lot de nouveautés. Donc, on a eu la 2G, la 3G, avec l'apparition, par exemple, des textos, des messages textes. Ensuite, l'apparition de l'accès à Internet. Ensuite, avec la 4G, l'accès à tout un tas d'applications. Donc voilà, à chaque génération, on a une nouveauté, finalement. Et ceci depuis une bonne quarantaine d'années, du coup. Mais on parle vraiment de téléphonie mobile. Voilà.
Thematik mit 5G ist nicht ganz einfach zu erklären. Weil auf der einen Seite haben wir den 5G, den aus dem Handy gewiesen wird, den ihr seht, easy peasy Internet, wir können locker irgendetwas streamen, ohne dass irgendetwas ruckelt. Und auf der anderen Seite kann den 5G natürlich noch viel, viel mehr. Und das muss man sich mal verstehen, wie ein Potenzial da dahinter steckt. Und da wird zu den Sebastian, seinen Forscherkollegen und Kolleginnen, ein Projekt in die Welt gerufen. Nämlich den 5G Planet.
The world is moving faster than ever. By 2050, more than 70% of us will live in cities. Mobility, logistics, energy and security are just some of the many areas that will be affected. The development of new solutions based on information and communication technologies is key to develop more efficient and sustainable services. With 5G Planet, we would like to highlight the potential of 5G, the fifth generation of cellular network technologies, and illustrate its benefits using the digital twin concept.
Es geht also darum, Leute aufzuklären. Aber wie das ganz genau funktioniert, das erklärt euch Sebastian am besten selber.
Alors 5G Planet, donc c'est un projet qui est cofinancé par le service des médias, de la connectivité et de la politique numérique du gouvernement luxembourgeois. Et donc c'est un projet qui est assez court, hein, il a duré un peu moins d'un an. Et là, notre but, justement, c'était de sensibiliser la population à la 5G. Qu'est-ce que c'est que la 5G ? En quoi ça peut être utilisé pour, par exemple, faire des applications de mobilité connectée ? Donc là, on a eu un mandat sur... on a du coup travaillé sur ce projet pendant plusieurs mois et on est arrivé à développer trois démonstrateurs qui vraiment réutilisent des outils qu'on peut utiliser tous les jours en tant que scientifique, donc des simulateurs, des robots, différents émulateurs. Et chacun de ces démonstrateurs, donc ces trois démonstrateurs, répondent à une question spécifique. Donc le premier démonstrateur répond à la question simple, qu'est-ce que la 5G ? Le deuxième démonstrateur, qu'est-ce que la mobilité connectée ? Quel est l'intérêt de la mobilité connectée ? Et le troisième démonstrateur, en quoi la 5G peut être utilisée pour la mobilité connectée ? Parce que la mobilité connectée n'utilise pas forcément la 5G, il y a différents modèles, on va dire, qui existent. Donc nous, notre but, ça a vraiment été de développer ces démonstrateurs-là, de les démontrer à différents endroits. Et d'ailleurs, on a mis en place un site web qui est donc 5g-planet.lu sur lequel on peut retrouver des vidéos, des éléments autour de ce projet-là. Donc nous, c'était très intéressant parce que c'est, en tant que chercheur, c'est toujours intéressant d'aller au contact du public pour voir exactement finalement quelles sont les questions qu'ils peuvent avoir en tête justement sur la peur, sur l'appréhension de la technologie, sur leur compréhension de la technologie en fait. Et nous, ça nous a amené aussi à adapter un peu la manière dont on communiquait, la manière dont on réfléchissait autour de cette technologie en réalisant que finalement, et ça c'est un constat qui est partagé par pas mal d'opérateurs télécoms, que la 5G est bien plus compliquée, non pas à vendre, mais à si je devais convaincre quelqu'un d'utiliser la 5G, ce serait probablement un peu plus compliqué que pour la 4G ou les générations précédentes, simplement parce que le message est plus complexe. Donc par exemple, si je veux convaincre quelqu'un d'utiliser un réseau 2G, je peux lui vendre la fonctionnalité SMS, le fait d'envoyer des messages entre différents dispositifs. La 3G, je peux lui vendre un accès à Internet. Mais pour la 5G, le paradigme change un peu. Disons que c'est vraiment un réseau qui peut-être est un peu plus destiné à du B2B, donc au développement de nouveaux services, au développement de nouvelles applications. Bien sûr, ça bénéficie également aux particuliers parce qu'on a quand même plus de capacités hein, par rapport à avant. Mais voilà, le fait de développer ce projet-là, ça nous a permis de finalement discuter avec le grand public, d'essayer de voir les meilleures manières de vulgariser la technologie derrière la 5G. Donc on parlait d'antennes actives, on parlait de bandes de fréquences, on parlait de termes qui sont généralement pas forcément compris en fait par le public, ou souvent ils sont pas forcément au courant de ces innovations-là. Donc nous, ça nous a permis de leur présenter un peu tout ça et de comment dire, non pas de les convaincre, parce que c'est pas le but. Le but, c'est d'être évidemment le plus objectif possible, mais de leur expliquer en fait l'intérêt de potentiel de ce réseau pour eux en fait dans leur vie quotidienne.
Heimkommen op Krustag. Ich muss sagen, das ist ein ganz besonderes Gefühl. Betritt in dir und es riecht dir schon den süßen Duft von der Kichelchen, die gebacken wurden, und es hört den Knarzen vom Holz am Kamin. Es fühlt sich alles so ein bisschen wie Wärme an. Und da, wenn dann noch eine Stufe steht an sinn ganz Familie gesäit, da denken sech: Ei, ës si wirklich du heem. Da schnëss dir viel, und ës dir viel, gëtt gelacht, gëtt gegext. Und im Endeffekt ist alles perfekt. Und da könnt ihr traditionell froh: Max, kannst du nicht genau aus dem Internet gucken? Ich nehm's, geht nicht. Aber spätestens dann, wir sehen, okay, du geht drum gegoogelt, was ich muss machen, geht den Router neu abgesagt, und ich denke sich, Kris, erfolgreich, gelöst. Und dabei muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich die unqualifizierteste Person, für ich nehm's einen Router zu flecken. Aber wie ist es dann eigentlich, wenn der Sebastian heben könnt? Immerhin vorstehen an der Telekommunikation und hat den Doktortitel. Wie oft hat er wohl mit seinen Eltern den Internet flecken?
Alors c'était très courant avant, mais je pense que au bout de toutes ces années, ils ont commencé à comprendre que j'avais pas forcément d'expertise, que mon expertise n'était pas forcément la meilleure là-dedans, mais oui, ça arrive encore. Ça arrive de moins en moins quand même, ça arrive de moins en moins. Je dirais au moins quelques fois par an. Allez.
Comment est-ce que cet intérêt pour la digitalisation s'est réveillé pour toi? Est-ce qu'il y avait un moment où tu as pensé, ça c'est mon sujet préféré maintenant, ou comment est-ce que ça s'est passé?
Alors en fait, un souvenir que j'ai, je pense que c'est là où c'est peut-être déclenché, je sais pas, une envie d'explorer un peu l'informatique en général, le monde des télécoms. C'est, je pense, quand j'ai eu quand j'étais chez mes parents, notre premier ordinateur. C'était un gros événement, c'était un investissement colossal. Et en fait, la première chose qu'on a eu à faire, c'était installer Windows 95. Grosse étape qui nous a pris, je pense, 2 ou 3 heures. Il fallait insérer consécutivement 15, 20, je ne sais plus combien de disquettes. Et je ne sais pas, mais j'en ai un très bon souvenir, en fait. Aujourd'hui, ce serait probablement très ennuyant et très long. Mais à l'époque, je ne sais pas, j'ai un souvenir très positif, en fait, de ce moment-là. Et après, c'est vraiment ce point de démarrage, en fait, qui a un peu ouvert la curiosité, après, à essayer d'explorer qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait créer avec ce type d'outils. Et en fait, d'un point de vue personnel, donc au-delà des études que j'ai pu avoir, qui sont après orientées vers l'informatique, le monde des réseaux et autres, en fait, il y a, au début des années 2000, donc quand vraiment l'Internet a explosé, et où du coup je pouvais utiliser ma fameuse machine, en fait, j'ai très vite essayé de créer des sites Internet. Donc au début, j'avais aucune connaissance. J'ai essayé d'utiliser, je me rappelle, Microsoft Word. Il y avait une fonction d'exportation HTML. Donc voilà, on arrivait à cette époque à faire des choses assez simples et qui fonctionnaient. En fait, on pouvait les publier assez rapidement. Et en fait, très vite, j'ai réussi à créer des sites autour de différentes thématiques, notamment les jeux vidéo. Et en fait, c'est des sites qui se sont popularisés. Et je pense que j'ai dû les développer pendant une dizaine d'années jusqu'à avoir après une expérience entrepreneuriale, être contacté par des éditeurs de jeux vidéo. Donc ça a été assez loin. Et je pense que la création, le développement, le fait de travailler avec des communautés aussi sur Internet, ça m'a probablement un peu aidé dans mes choix de carrière aussi. Et voilà.
Mein erster Schritt am Internet, das waren zur Zeit von den Homepagen auf chill.lu und auf party.lu. Und ich kann euch sagen, wie ich das allein hinkriegt habe, da eine Homepage aufzusetzen, das hat sich ein bisschen so gefühlt.
Hackerman, he's the most powerful hacker of all time.
Und während ich stolz wie Oscar war, dass mein 3 Selfien da auf der Website waren, gingen Leute, die da ein bisschen mehr professionell betrieben haben. Zum Beispiel mit Videospielseiten, die effektiv ganz groß sind und krass Klickzölle gekriegt haben. Und ihr könnt euch vielleicht denken, ob wenig da ausspielen, weil, richtig, der Sebastian war eh von den Leuten, die da wirklich pionierärbisch gelegt haben. Und wie das alles vier um in der Zeit war, habe ich ihn mal gefragt, wie ihn dann haut, ob seine Vergangenheit zurückblickt.
Alors c'est des très bons souvenirs parce qu'à l'époque, en tout cas quand on parle d'Internet, tout était possible. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. J'ai dû commencer en 2002 ou en 2003, il me semble. Donc il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas encore de smartphones. Donc en fait, quand il s'agit de création, de créer des sites Internet, des communautés sur Internet, il y avait très peu de concurrence en fait. Et ça, ça a vraiment permis de faire pas mal de choses. Donc, c'était assez intéressant, en fait, d'expérimenter, de tester, de voir un peu ce qui était possible ou pas. Mais finalement, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, sur des nouvelles technologies de communication comme la 5G, où on parle demain de la 6G et d'autres, c'était vraiment une étape toute petite, en fait. Aujourd'hui, vraiment, le travail de... Enfin, moi, ce que je vois comme un travail de recherche, de développement technologique au Luxembourg, les portes qui peuvent être ouvertes par ce type de travail sont très, très, très grandes, parce qu'encore une fois, on peut contribuer à développer des applications, des services qui ont un impact pour la société. Donc, je dirais que cette époque-là était intéressante. Ça a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais c'est pas pour autant que je dirais que hier était mieux qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on peut encore faire bien plus de choses en fait, grâce à toutes ces technologies, grâce à tout cet effort en fait scientifique et technologique qu'il y a autour du monde des communications.
Parlons des jeux vidéo que tu as créés avec les sites que tu as créés. Est-ce que tu es aussi aujourd'hui, est-ce que tu trouves le temps pour tes jeux vidéo ou est-ce que ça c'est quelque chose du passé?
J'aimerais me trouver un peu de temps, mais je n'en ai pas. Le dernier jeu vidéo que j'ai acheté, j'ai dû y jouer 5 minutes, peut-être. et voilà, donc c'est... Non, j'ai vraiment... Le temps est très limité. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités professionnelles, j'ai une vie de famille, j'ai pas mal de projets qui me prennent du temps à côté, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc c'est vrai que finalement, le temps consacré aux jeux vidéo... Et clairement plus la priorité depuis beaucoup d'années. Oui.
Sur ton profil de Twitter, tu as écrit que tu es un ex-web entrepreneur. Pourquoi est-ce que tu as dit non, c'est pas le chemin que je veux poursuivre, aller à la recherche?
C'est une bonne question en fait. Donc j'ai développé ces sites web pendant une dizaine d'années à peu près, jusqu'en 2000, donc de 2003 à 2013. Et c'est vrai qu'en 2013, les réseaux sociaux, les nouveaux médias, donc par exemple YouTube, tous ces services-là n'étaient pas forcément aussi populaires qu'ils sont aujourd'hui. Donc il y avait encore énormément de possibilités pour des sites communautaires finalement de créer un business. Et c'est vrai qu'il y avait des revenus qui étaient générés à l'époque. On avait une notoriété. Quand je dis on, c'est que évidemment j'étais pas tout seul. Plus les années sont passées, plus une communauté s'est construite. Je travaillais aussi avec quelques collaborateurs. Donc on avait une certaine notoriété. On était régulièrement, même auprès de la presse. Donc on était régulièrement invité à différents événements par exemple Nintendo, Microsoft, Sony. Recevait aussi du hardware, des jeux à tester, donc c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. Mais voilà, je faisais ce travail en parallèle de ma thèse, donc ça prenait énormément de temps, donc je devais faire ma thèse le jour et ce travail-là la nuit, ou l'inverse, enfin voilà, tout était possible, mais clairement, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix, j'ai voulu me focaliser en fait sur une activité qui pour moi faisait plus de sens sur le long terme. Et je voyais en même temps que le secteur du web, en tout cas, c'était peut-être un peu compliqué à l'époque, commençait à être compliqué, notamment avec l'apparition de tous ces nouveaux médias, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont centralisées sur les réseaux sociaux. Donc je voyais aussi que ce type de site communautaire, on devait être à peu près à 10 000 visiteurs uniques par jour, je pense. Arriver un peu à... le modèle était peut-être un peu essoufflé au bout de 10 ans. Et très légitimement, j'ai voulu vraiment me focaliser, mettre toute mon énergie dans le monde de la recherche pour vraiment essayer de me focaliser, essayer j'aime me focaliser sur une activité, on va dire, et en avoir deux, oui, clairement, il fallait faire un choix, voilà.
Zocken, dat kriegte Sebastian Haut nicht mehr so gut wie früher. Demolz war ja ein ganz großer Fan von der Reihe Final Fantasy. Aber wie dem so ist, am Leben nicht viel Geduld. Sowohl beruflich wie auch privat. So dass Zocken nicht mehr ein Top-10-Prio ist, mir ist der eigen nie weit handeln. Was aber nicht viel heißt, dass denn Sebastian kein Hobby hat. Ganz im Gegenteil, hat er sogar richtig, richtig viel. Was mich aber dabei ein bisschen stutzig gemacht hat, kein einziges von diesen Hobbyen braucht ein Bildschirm, eine Internetverbindung oder sonst irgendetwas Technologisches. Am Endeffekt kann ich so in seiner Freizeit, wenn er dann einen hat, ist der Sebastian komplett offline.
Non, non, évidemment, on a toujours le temps pour se relaxer, pas de souci là-dessus. Disons que dans mes loisirs, il y a pas mal de choses. Donc, déjà, encore une fois, la vie de famille, alors c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai une petite fille, j'ai une femme, bien sûr. Donc, ne serait-ce que passer du temps ensemble, sortir, se balader. On a la chance de vivre en dehors de la ville, en fait, donc plutôt côté campagne. À côté d'une forêt, donc voilà, ne serait-ce que passer des moments en fait juste ensemble, c'est déjà un très gros loisir pour moi. C'est toujours un peu un point de, comment dire, de déconnexion, clairement, où j'arrive à me retrouver. Et après, j'ai d'autres types de hobbies, donc j'aime bien la photographie, par exemple. J'ai fait pas mal de, enfin, au cours des derniers étés, des dernières années, d'astrophotographie. Ça, c'est quelque chose aussi qui est possible en campagne, donc c'est pas mal.
C'est quoi, astrophotographie?
C'est plus prendre des photos d'étoiles, de ciel étoilé, ce genre de choses. Des photos de paysages aussi, ça m'arrive de temps en temps. J'ai aussi un hobby, mais que j'ai mis au placard depuis quelques années, de numismatique, donc de collection un peu de pièces anciennes, ce genre de choses. C'est des choses que j'ai aimé à un moment donné pour découvrir un peu l'histoire de certains pays, de certaines époques.
Est-ce qu'il y a des époques préférées que tu as, ou est-ce que c'est de toutes les époques que tu trouves?
Moi, j'ai fait pas mal d'époques. La dernière que j'ai fait en date, c'était plus époque romaine, où là, on redécouvre un peu l'histoire aussi. Donc, c'était assez intéressant. Et après, ma vie est assez simple. Hein, donc, il n'y a pas de choses trop extravagantes. J'aime bien aussi bricoler, faire des tâches un peu manuelles, en extérieur, dans le jardin. Voilà, c'est des choses qui, finalement, sont complètement différentes de ce que je peux faire au jour le jour dans mon activité professionnel.
Je voulais dire que beaucoup de choses sont très analogues. Tu travailles dans un métier très connecté, en fait, et tu recherches dans un métier très connecté, et toutes les choses que tu aimes faire sont très analogues.
Oui, bon, alors ça ne veut pas dire aussi que dans le cadre de mes loisirs, évidemment, j'adore toucher à l'outil informatique, essayer de continuer un peu. Enfin, je pense que je veux pas parler au nom de tous les chercheurs, mais je pense qu'on a tous plus ou moins une part de passion, un peu. C'est quand même un travail qui est guidé par ça. Il faut aimer vraiment faire de la recherche, j'imagine, pour en faire. Et moi, oui, alors le travail ne me suit pas forcément chez moi, mais c'est des choses que j'aime faire, dont j'aime discuter à la maison, en dehors des heures de travail, ça c'est clair.
Ein guter Kollege von mir hat gesagt, wenn du schon einmal zu Lützebusch Auto gefahren bist, da stinkst du viel. Und ich meine, ganz Unrecht hat er nicht damit. Lützebusch hat immer Probleme mit Stau, vor allem an den Grenzregionen. Und da lief doch der Sebastian immer ob er neu zu wannen, ob der bist fährt. Und dafür passt es sich, dass er dann all der Motivation hat, um seinem aktuellen Projekt weiterzuschaffen. Der beschäftigt sich nämlich mit 5G und Mobilität. Aber wie ihn die zwei Sachen zusammen verbindet, für dann eventuell eine Lösung für die Lützburger Stauprobleme zu finden, das erklärt ihn am besten selber.
Alors, déjà, je pense que c'est... Bon, j'expérimente la mobilité tous les jours, comme beaucoup de mes collègues, comme beaucoup de personnes vivant au Luxembourg ou en zone frontalière. Et effectivement, il y a pas mal de choses à faire. Alors, il y a énormément de choses qui sont dues à ça. Déjà, c'est simplement un problème de capacité. On est tout simplement trop, en fait, à emprunter les routes. Et en fait, quand on est trop à emprunter les routes, je pense qu'il y a deux types de solutions. Soit on agrandit les routes, mais évidemment, c'est coûteux, c'est compliqué, c'est des problèmes d'infrastructure. Ça peut se discuter, mais ça prend du temps. Et moi, je suis plus partisan de la deuxième solution, c'est-à-dire essayer de créer des systèmes de transport intelligent, finalement, où on va essayer d'optimiser, d'améliorer la manière dont les véhicules se déplacent, améliorer la sécurité, essayer de fluidifier le trafic, voilà. Et pour moi, la communication, c'est central à tout ça, en fait, parce que ça va permettre d'échanger des données entre des véhicules, l'infrastructure, rendre cet univers un peu plus connecté pour mieux, finalement, essayer d'anticiper, prendre des décisions Et c'est là, en fait, où la 5G est utile. C'est-à-dire qu'avec la 5G, on a un réseau qui est très, très réactif. Donc, en fait, typiquement, un véhicule qui soit connecté, qui soit autonome, qui soit... peu importe le véhicule, peut envoyer tout un tas d'informations de façon très réactive et à distance, en fait, pour qu'une décision soit prise. Donc, la décision, ça peut être de changer un feu de circulation, ça peut être d'envoyer des véhicules de secours, par exemple, parce qu'il y a un accident qui est détecté. Ça peut être d'adopter des solutions de gestion du trafic pour rerouter un peu des véhicules, par exemple. Donc voilà, pour moi, la connectivité est assez centrale, en fait, au monde de la mobilité, parce qu'il y a un besoin d'échange d'informations entre toutes ces... disons que ce n'est pas un besoin, mais c'est clairement il y a énormément d'applications et de nouveaux services qui pourraient se développer si les véhicules et l'infrastructure se communiquaient un peu plus.
Aus sich fand ich den Ansatz mega spannend und ich meine auch, dass es tatsächlich kein funktionieren, aber just ein klein froh. Mir gehe nur davon aus, dass alle Autos ein intelligente Bordcomputer wird. Wie war das denn mit den Autos in den ersten Anfang 2000er oder den 90er sogar? Die sind ja technologisch weiter so equipiert wie die Autos von heute. Dafür, welche Lösung können ihr dann da finden?
Alors là, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit on envisage une solution purement mécanique, et dans ce cas-là, il faut effectivement mettre à jour tous les véhicules, ou peut-être mettre en place des systèmes d'aide à la conduite, donc des espèces de boîtiers qui vont se connecter même aux anciennes voitures et qui vont permettre de communiquer. En fait, ce qu'on appelle la mobilité connectée, d'une manière générale, ça peut impliquer des voitures, mais ça peut aussi impliquer des périphériques comme des téléphones. Donc ça, ce serait des solutions, d'essayer de connecter les voitures via ce type de dispositif et pas forcément via les voitures elles-mêmes. Mais après, moi, je pense qu'il y a quand même énormément de solutions qui peuvent être développées sans que 100% du parc automobile soit connecté. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, uniquement connecter une partie des véhicules, donc peut-être 5, 10, 20%, et se servir de cette information-là pour essayer de mettre en place des stratégies, des meilleures stratégies de gestion du trafic, de déploiement de nouvelles infrastructures, de gestion des feux de circulation, etc. Donc là, un exemple, ce serait d'utiliser, par exemple, alors ce qu'on appelle ici le jumeau numérique, et le Luxembourg se prête très très bien à ça. Donc c'est le fait, en fait, de vouloir essayer de, comment dire, de créer un clone digital d'une zone, d'une ville, ou potentiellement pour le Luxembourg, de tout le pays. Et donc, en parlant de la mobilité, on pourrait très bien imaginer que sur la base de quelques informations, d'informations remontées d'une partie de la population de véhicules, on arrive à extrapoler avec des modèles mathématiques et autres ce qu'est la mobilité de tout le Luxembourg. Et donc là, on aurait un clone finalement de la mobilité au Luxembourg, un observatoire de la mobilité en temps réel, de disponible, donc une sorte de boîte sécurisée dans laquelle on pourrait essayer de tester des scénarios, essayer de générer des accidents, voir quels sont les meilleurs scénarios, les meilleures manières de répondre à ce type d'événement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille ici.
Wenn ich dem Sebastian seinen Job beschreiben muss, da gebe ich so ein Haut schon Humor denken. Weil Lograt schaffte schon un 5G, was noch nicht 100% etabliert ist, noch nicht 100% verstanden ist, an uns aber schon viel Lösungen kann bieten. Und gleichzeitig muss man im Kopf schon beim nächsten G sein, also beim 6G, weil die wird ja dann die nächsten Lesungen haben. Und da frage ich mich, wie ist das dafür hin, an der Branche zu schaffen, wo es der Haut schon muss so weit an Zukunft denken, obwohl es das Gegenwart eigentlich noch gar nicht so ganz verstanden muss.
Alors moi, ce que je connais à la base derrière, c'est la théorie, c'est les technologies qui sont derrière la 5G et la 6G. Alors ensuite, comme je l'ai dit, l'industrie a agrégé ça sous forme de génération. Mais finalement, ce qu'il y a derrière, c'est des technologies, c'est des standards, c'est des choses qui sont... C'est de la recherche. C'est finalement un domaine qui est en constante évolution. Et finalement, peu importe les générations, c'est quelque chose que moi, je suis au jour le jour. Je lis des articles. Je contribue aussi en tant que chercheur à ce domaine-là. Et après, finalement, peu importe la dénomination que ça peut prendre, c'est des choses que je continuerai à suivre. Voilà, c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut... alors évidemment, c'est toujours bien d'utiliser les mots-clés 5G, 6G. Je pense que ça parle beaucoup plus au grand public, aux médias. Et évidemment, ça facilite aussi le dialogue d'un point de vue technique, scientifique parfois. Mais voilà, il ne faut pas oublier que derrière, c'est des technologies qui sont finalement très liées. On parle du domaine des communications sans fil. Et c'est finalement ça que je suis, voilà, sans forcément faire d'attache particulière à une génération ou à une autre. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaye de développer, parce qu'on est vraiment en plein dedans, c'est donc déjà c'est essayer de faire adopter la 5G finalement. Donc essayer de développer des nouvelles applications autour de la 5G qui donc souffre d'un manque d'adoption, hein, que ce soit des entreprises ou du grand public. Donc là, on a différents partenariats en cours, notamment avec Proximus, Luxembourg. Et ensuite, on essaye donc de développer de la recherche, des technologies pour préparer demain, finalement. Donc le développement de la future 6G, qui du coup arriverait autour de 2030, probablement. Donc la route est encore un peu longue, mais on a déjà pas mal d'idées et d'efforts en fait, sur lesquels on contribue au niveau européen.
En dat war het. Dan nog zo rommel deze episode van Mijn Element. Mam Sebastian Fay. Viel moest merken voor die spannend afblik aan de wereld van 5G of van 6G. En wanneer je deze episode gefallen hebt, dan maak dat wie immer. Deel ze met vrienden van mij, post ze op social media en bewerte ze waarin ze bewerten kan. Wir hören uns die nächste keer rum. Bis dan. Ciao.